Father, we thank you, Lord, for
on te remercie, Seigneur,
gathering us together here tonight. Thank you so much.
Pour nous rassembler ce soir ici. On te remercie pour le grand culte de ce matin. Bénis cette soirée alors qu'on va encore regarder la parole de Dieu. On te prie que l'Esprit nous donne quelque chose d'éternel pour chacun d'entre nous. Et on est juste reconnaissant ce soir. Et on te prie tout ça au nom précieux de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose à la télé aujourd'hui qui avait une valeur rédemptive. Ceux qui ont dit oui, c'est probablement qu'ils l'ont regardé aujourd'hui. Faites attention à ce à quoi vous dites Amen. Il y a longtemps, Pasteur Stevens était en train de prêcher et quelqu'un venait juste de tomber endormi au milieu du message. Et il a dit quelque chose. Toutes ces âmes qui vont aller en enfer. Et là, cette personne s'est levée et a dit Amen. Et Pasteur l'a regardé d'un air de dire ah, c'est pas un Amen approprié. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de choses à la télé qui ont une valeur rédemptive. Mais à l'occasion, ma femme et moi on regardait ce show sur des nouvelles. Et c'était l'histoire d'un père et de son fils. Ils s'appelaient eux-mêmes l'équipe Hoyt. Le père s'appelait Dick, le fils s'appelait Rick, et ils faisaient des courses ensemble. Ils ont fait 64 marathons ensemble et 206 triathlons tous ensemble. Depuis 1975, ils ont traversé au moins 1000 lignes d'arrivée. Et ils ont même traversé les États-Unis et il leur a fallu 35 jours pour parcourir 3700
miles.
Le père, Dick, n'est pas un grand coureur en fait. Le problème, c'est les jambes de Rick, son fils. Quand il est né en 1962, le cordon ombilical s'est enroulé autour de son cou et il l'a privé d'oxygène. Et du coup, il n'a pas eu la coordination nécessaire. Et il y avait, d'après les docteurs, aucun espoir de développement normal. Mais son père et sa mère n'étaient pas d'accord avec le pronostic. Ils se sont rendus compte qu'il ne pouvait peut-être pas marcher, se lever, mais qu'il était très intelligent et qu'il pouvait penser. Il a été diplômé au collège. Et puis un jour, dans sa vie, il a dit « J'aimerais courir ». C'est ce qu'il a dit « Papa, j'aimerais courir ». Et son père était d'accord. Et ils ont fait, je crois que c'était leur première course de 5 miles. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils l'ont mis dans une espèce de petit chariot à trois roues et son père courait derrière lui et le poussait tout le long. Et c'est une histoire remarquable. Et bien sûr, une histoire très inspirante. Le père est tellement heureux de faire ça pour son fils parce que ça lui donne tellement de joie. Et il s'illumine à chaque fois qu'il y a une course qui arrive. C'est assez récent. Apparemment, le père a réalisé après une course qu'il avait eu une attaque cardiaque en plein pendant la course. Il a eu une douleur à l'épaule. Il a quand même continué la course, il est allé jusqu'au bout. Et puis il a été traité par les médecins et il est revenu à la course ensuite. En dehors du fait que le fils avait un cœur volontaire, il n'a fait aucune autre contribution. En fait, le fils était obligé de compter complètement sur la force de son père. Et quand vous écoutez cette histoire, ça vous donne une impression un peu familière, n'est-ce pas? Parce que cette histoire, c'est notre histoire aussi. Pensez à ça. Il est obligé de compter sur son père pour faire ce qu'il ne peut pas faire. Il le pousse. Parfois, il est même obligé de le tirer. Et c'est impressionnant de voir ça, par exemple, pendant un triathlon. Le fils veut vraiment le faire, mais c'est le père qui pourvoit avec toute la force, toute la ressource, toute la puissance. Et c'est juste comme Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut que vous et moi nous fassions. Il veut être celui qui nous porte. Il veut être celui qui pourvoit de toute la force. Celui qui, du début jusqu'au commencement, jusqu'à la fin, va nous porter. Celui qui nous a fait commencer par la grâce et qui promet qu'on passera la ligne d'arrivée, pas sur la base de nos propres efforts, de nos propres capacités, mais juste en nous appuyant sur sa puissance, sa force, ses ressources et ses promesses de le faire pour nous. C'est Jean 3, verset 16. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Ces trois mots, croire en lui, c'est ce que nous avons fait, c'est l'histoire de notre vie, n'est-ce pas? On est là ce soir parce qu'on a cru en lui. Et on sait que dans plusieurs années, on aura toujours le même témoignage. On sera ici, où qu'on soit, ça sera un résultat direct du fait que nous avons cru en lui, que nous avons eu confiance dans ce qu'il avait fait pour nous. Cette phrase ne plaît pas tellement dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on vit dans un monde d'autosuffisance. Chacun doit être capable de faire tout par soi-même. On n'écoute pas « crois en lui », on entend sans arrêt « crois en toi ». Crois dans les ressources qu'il y a en toi. Essaye plus fort. N'abandonne pas. Creuse un peu plus profond au fond de toi et tu vas trouver des ressources cachées dans ton âme. Et tu vas être capable de te motiver pour passer la ligne d'arrivée de la course de ta vie. Mais je vais vous dire quelque chose. Le but derrière ces choses, c'est compter sur soi-même. Et on n'a rien à faire avec ça dans le royaume de Dieu. On va continuer pendant des années, pendant des décennies, mais ce n'est pas à propos de nous, ni à propos de nos forces, ni à propos de nos jambes. Ce n'est pas avec nos propres forces que nous faisons ces choses. Ce n'est pas à propos de nous ou de ce que nous avons fait ou de quoi que nous puissions faire. C'est toujours à propos de ce que Dieu a fait pour nous. Le monde n'aime pas ça. Spécialement parce que dans ces mots, croire en lui, il n'y a pas de tolérance. Qu'est-ce qu'on fait? On croit en lui. On reste dans une seule avenue. C'est pas le discours. Bien sûr, vous pouvez croire en lui, mais vous pouvez aussi croire en beaucoup d'autres choses. En Bouddha, en Mohammed. Mais on croit en lui. C'est une seule voix. Les gens disent, oh, tu crois en Jésus? Et les gens répondent, oh, moi aussi je crois en Jésus, mais je crois aussi, et etc., etc. Et il cite beaucoup de noms de prophètes. Mais aucun de ces prophètes ne leur a promis la vie éternelle. Aucun de ces prophètes ne leur a jamais dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et j'aime le fait que c'est ce que Jésus a dit. Si vous vouliez, vous pourriez être beaucoup plus politiquement correct en disant, comme Jésus, si vous voulez, je peux vous montrer la voie. Je peux vous montrer le chemin vers la vérité. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Si vous croyez en moi, on vit dans un monde où on nous dit, vous chrétiens, vous êtes tellement intolérants. On serait tolérant s'il y avait d'autres possibilités pour être sauvé, s'il y avait d'autres chemins. Mais voilà, le fait est, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a un seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est exclusif. La route est étroite. C'est ce que Jésus a voulu dire par une route étroite. Pas étroite dans le sens où on est obligé de faire suffisamment de choses pour avoir le droit de marcher sur cette route, mais dans le sens où cette route n'est pavée qu'avec une seule chose, et c'est la grâce de Dieu. Et si vous n'acceptez pas la grâce de Dieu, vous allez marcher sur le chemin large qui mène à la perdition. Parce qu'il n'y a pas de chemin vers le salut en dehors de la route étroite qui est pavée par la grâce de Dieu. Et on peut parler de l'islam, du bouddhisme, de l'humanisme. Est-ce que c'est des formes de salut possibles? Absolument pas. Le salut est quelque chose d'exclusif et on ne le trouve qu'en Jésus-Christ. Quand le Père dit qu'il porte son Fils, c'est exactement la même chose que Dieu fait pour nous dans la course spirituelle. Notre Père céleste pourvoit pour toutes les choses dont nous avons besoin. On n'a rien à faire dans cette course si ce n'est le laisser nous porter. Le laisser commencer pour nous et nous porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on sait qu'on va passer la ligne d'arrivée. On va être récompensé, exactement comme Rick et son père. Rick a le trophée et il y a son nom sur le trophée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste regardé son père en disant « Je crois en toi ». On fait la même chose avec Dieu. On lui fait juste confiance, on croit en lui. Spirituellement, on n'a pas la force de courir dans nos jambes. On n'a pas les muscles pour réussir avec le système de ce monde. On n'a aucune puissance. Paul a dit, le vouloir est là, mais j'arrive pas à faire ce qui est bon. Et si notre volonté pouvait, si on pouvait trouver la puissance en nous-mêmes de faire notre volonté, on pourrait se glorifier de quelque chose. Mais voilà ce que Paul dit en Romains 4, verset 5. Et il dit, il y a un groupe de personnes que Dieu justifie, il y a un seul groupe. C'est ceux qui étaient sans Dieu. Romains 4, verset 5. À celui qui ne fait point d'œuvre. Est-ce que vous n'avez pas ça? Celui qui ne fait point d'œuvre. On vit dans un monde où tout le monde est en train de faire des œuvres pour être sauvé. Que ce soit garder les commandements. Il y a des gens qui se disputent à propos de jusqu'où ils doivent aller pour garder les commandements. Ils passent leur vie entière à essayer. Et on sait ce que dit la Bible, si on offense la loi sur un seul point, on est coupable de tout le reste. C'est incroyable. Mais Jésus a dit à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, il justifie quel groupe de gens? Les impies. On est les personnes les plus impies qui soient réunies dans un édifice ce soir. On est impie, on le sait, mais c'est ce qui fait de nous des candidats pour la justification de Dieu. On n'est pas capable de travailler, nos jambes ne sont pas assez fortes, on n'est pas capable de faire des œuvres, on sait qu'on ne peut pas y arriver, mais on abandonne. Comme disait Pasteur Scheller ce matin, on reste allongé sur le lit, on regarde le plafond et on fait confiance à Dieu. On sait qu'il a choisi dans sa grâce de nous justifier dans cette condition-là. Il justifie l'impie. Paul nous assure dans ce passage, et j'aime ça, qu'il y a une classe de personnes, les impies, pas ceux qui font des œuvres, les impies. Job a appelé ses conseillers des médecins sans valeur. Combien de médecins sans aucune valeur sont derrière des pulpitres ce soir en train d'enseigner? Il y a le docteur, faites ton mieux. Il y a le docteur, essaye encore, etc., etc., etc. Mais ce sont tous des médecins sans valeur. Parce qu'ils disent essentiellement aux gens que ce qu'ils pensent pouvoir produire, c'est ce que Dieu recherche. Mais Dieu ne recherche rien qu'on puisse produire, parce qu'il sait qu'on ne peut rien produire. Alors c'est lui qui pourvoit pour nous. Et alors je pense à cette combinaison du père et du fils, je pense à ce fils qui est juste assis et qui juste se régale de la course. Juste, il doit regarder de temps en temps son père et son père fait tout le travail. Et j'ai vu l'image à la télévision, le père était en train de sourire. Ça lui donnait de l'énergie de penser qu'il était en train de faire ça pour son fils qu'il aimait tellement. C'est exactement comme nous. On est juste assis dans une chaise et c'est Dieu qui court la course. On n'a même pas de quoi suer, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Dans son amour pour nous, voilà ce que Dieu a fait. Le mot hébreu de l'Ancien Testament, qui est l'équivalent du mot agapé dans le Nouveau Testament, c'est Dieu s'est enchaîné à nous. C'est littéralement ça en hébreu. C'est Dieu comme s'il avait mis une menotte avec nous. Et même si on voulait s'en libérer, on ne peut pas. Si on veut essayer de s'échapper de l'amour du Père, on ne peut pas. Dieu lui-même dit, j'ai perdu la clé, tu es attaché à moi pour l'éternité, pour le ciel. Et on répond, gloire à Dieu. Ça, c'est un amour qui ne nous laissera jamais partir. Amen. Qui est justifié ici? Pas celui qui fait des œuvres. Pas celui qui est capable, pas quelqu'un qui est fort, mais celui qui n'a pas de force, pas de capacité, pas celui qui pense qu'il peut y arriver. Mais comme le prophète Ésaïe a dit, quand il a vu Dieu haut élevé, il a crié, il a dit, « Qui suis-je ? Car je suis impur. » Seigneur, je t'ai vu, j'ai vu ta gloire, j'ai vu ta majesté. Et au lieu de dire, je pense que je peux le faire, je dis, je suis incapable. Il n'y a aucun espoir pour moi, en dehors de toi. Il n'y a aucun espoir pour nous si Dieu ne fait pas pour nous ce qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Une autre traduction de Romains 4, verset 5. C'est on fait confiance, le fait de faire confiance à Dieu pour faire les choses à notre place, ça nous met en règle avec lui. Nous ne devons pas faire confiance à nos capacités. Si on n'était pas attaché à Dieu, enchaîné à l'amour qui ne veut pas nous laisser partir, si on n'était pas si faible et si fragile. Alors, une fois qu'on réalise ça, on comprend qu'on a besoin que Dieu nous porte jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est notre seule possibilité. Dieu fait pour nous ce que Rick, ce que le père de Rick fait pour lui. Et il le fait encore et encore et encore. Et Dieu fait ça avec nous. Il est responsable de notre début et de toute notre course jusqu'à la fin. Il n'y a aucun point, aucun moment dans notre vie où Dieu risque de nous dire « Je suis choqué par ton comportement ». Avant que le temps commence, je n'avais pas idée qu'il y avait quelque chose d'aussi mauvais en toi. Maintenant que je viens de découvrir ça, j'enlève les menottes et je me sépare de toi. Mais ça n'arrivera jamais parce que Dieu ne sera jamais surpris ni choqué de ce qu'on est. Il sait déjà ce qu'il y a en nous. Et ça ne l'a pas empêché de faire alliance avec nous. Jean 1, verset 28, « Je leur ai donné la vie éternelle et ils ne périront jamais. » La Bible amplifiée dit « Ils ne perdront jamais cela, ils ne périront jamais à travers les âges. » Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il est vivant pour intercéder pour ceux envers lesquels il s'est engagé. Quel réconfort on a dans nos cœurs de savoir qu'il est en train de prier pour nous quand on n'est pas capable de prier. Quel réconfort dans nos cœurs de savoir que quand on prie, le Saint-Esprit fait des intercessions pour nous avec des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber ou trébucher ou être rétrograde ou même amener parfois des reproches sur son nom. On peut se rappeler que David a donné une occasion aux ennemis de Dieu de blasphémer son nom. Et ça peut nous arriver, ça aussi. Mais Dieu n'a pas dit, « David, tes péchés sont tellement grands que je me sépare de toi maintenant. C'est pas possible de continuer comme ça. Tu as été pas mal jusque-là, mais là, c'est pas possible. Je suis obligé de me séparer de toi. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre, peut-être Saül. » Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu a vu venir le péché de David. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a utilisé la chute de David pour accomplir les promesses. Non seulement le péché de David n'a pas ruiné ses plans, mais il l'a utilisé pour que son plan s'accomplisse à cause de sa grâce. Donc quand on tombe, quand on trébuche, oui, c'est possible. On sera discipliné, on sera châtié. Il y aura des moments où on ne sera pas des enfants parfaits, où on fera des erreurs. Mais comme Pasteur Chaleur a dit ce matin, même si on tombe, on ne tombera que dans la plus grande grâce. On ne peut tomber que dans les bras éternels de Dieu. Et il nous gardera de tomber complètement. On trébuchera, mais Dieu ne nous laissera jamais tomber hors de la course. Ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il nous a scellés. Et ce sceau, ça n'était pas une période probatoire pour voir si on allait en être digne. Mais il nous a scellés dès le début, au moment où on a cru, en Éphésiens 1, verset 30. Éphésiens 4, 30. Et on est scellés jusqu'au jour de la rédemption de notre corps physique. Ce sceau est quelque chose d'absolument certain. Quand vous achetez quelque chose qui est scellé, vous avez besoin d'un outil particulier pour arriver à ouvrir quelque chose de scellé. Vous pouvez essayer avec toutes sortes de choses, et c'est très compliqué d'ouvrir quelque chose de scellé.
breath, there's no air, there's nothing. I'm trying to get this toy. And I thought, if that's the way they seal toys, how much more does God
et si c'est comme ça qu'on scelle des produits qu'on achète dans le commerce, imaginez à quel point on a été scellé par Dieu. On est scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'est comme si on était emballé sous vide par Dieu, avec la plus grande de toutes les forces, le Saint-Esprit. C'est un sceau qui ne peut pas être brisé. Et en plus de ça, il nous a donné une armure spirituelle et une armée d'anges pour nous servir. Et lui-même, il habite en nous. Pensez à la protection, à la sécurité. Même le président des États-Unis n'a pas une telle protection, une telle sécurité. On n'a pas besoin de CIA ni de FBI. On a le sceau de Dieu, l'armure complète de Dieu, l'amour du corps de Christ, la direction du Saint-Esprit, toutes les bénédictions en Jésus-Christ. On est prêt à courir la course et on a juste à sauter dans notre chaise et regarder en arrière vers le Père et lui dire « Vas-y, porte-moi ». Et Dieu le fait. La seule chose qu'il nous dit peut-être, c'est attachez votre attache la ceinture, parce que ça va bouger. Pensez à ça ce soir. Je pensais aux autres religions du monde. Le judaïsme, essentiellement basé sur la moralité. Si tu arrives à atteindre un certain niveau, tu as peut-être une chance d'arriver à la présence de Dieu. L'hindouisme, tu peux éventuellement être réincarné. Mais le risque, c'est que si tu obtiens ce que tu mérites à ta prochaine réincarnation, tu risques peut-être de devenir la pire bestiole de la planète. Est-ce que tu veux vraiment passer par toutes ces réincarnations? Le bouddhisme. L'islam. Il faut gagner son chemin vers Allah en faisant toutes sortes de choses. Il faut suivre ça, il faut faire ça. Alors que nous, on arrive juste devant Dieu et on dit, Seigneur, je ne suis capable de rien faire. Et Dieu dit, c'est exactement ce que je cherche. Je vais tout faire pour toi. Il attache notre ceinture par la grâce. Il nous promet une arrivée en sécurité. Toutes les religions en dehors du christianisme, en gros, ce qu'elles disent, c'est « Vous pouvez vous sauver vous-même ». Mais Jésus-Christ est le seul qui a le courage dans notre culture, qui crie après la tolérance. Il est le seul qui a le courage à dire « Non, vous ne pouvez pas vous sauver. Ma mort sur la croix peut vous sauver et rien d'autre. » Et c'est ce qu'on dit nous aussi. On ne va pas évangéliser en disant voilà des tracts pour les différentes religions. Choisissez un et vous serez sauvés. On ne dit pas ça. On ne dit pas, vous pouvez prendre n'importe quelle route. Elle conduit tout au salut. On ne dit pas ça. Ce que Jésus a dit, c'est que lui-même, il a ouvert le chemin du salut dans la présence de Dieu. Et le moyen de prendre ce chemin, c'est pas par des efforts humains, c'est pas par nos propres capacités. C'est parce que Jésus l'a ouvert et qu'il l'a appelé le chemin de la grâce. Et il dit, je suis le chemin. Ce chemin, c'est moi. La seule chose que vous avez à faire, c'est de me faire confiance. Grâce à Dieu, parce qu'il est venu. Il est venu pour les faibles. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour des pécheurs. Et tout ce que vous avez à faire pour faire partie de ça, c'est confesser vos besoins. C'est tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est de confesser nos besoins. La plupart des religions disent « Amène tout ce que tu fais et on va parler du salut. » Mais la Bible dit « Confesse juste tes besoins. » Dis que tu es perdu, que tu n'as aucune force, que tu es faible, que tu es pécheur, que tu es impie. Que tu ne peux même pas faire un pas dans la direction du salut. Que tu Tu as essayé de trouver quelque chose de bon, mais que tu n'as rien trouvé. Et que sans Dieu, tu n'as aucun espoir. La chose merveilleuse à propos de l'histoire de ce père et de ce fils, Dick et Rick, c'est qu'ils ont tous les deux reçu une médaille quand ils ont traversé quand ils ont passé la ligne d'arrivée. Ils ont tous les deux vu leur nom sur le tableau des résultats. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'en fait, c'est le Père qui a fait tout le travail, exactement comme notre Père Céleste. Il fait tout. C'est la chose la plus extraordinaire qu'on peut espérer pour notre vie. Il y a tellement de gens qui veulent essayer de participer, essayer de courir eux-mêmes, essayer de montrer de quoi ils sont capables. Bonne chance. Bonne chance. Mais je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a une seule sorte de personne que Dieu justifie. Ce sont les impies, les gens sans force, les pécheurs, les ennemis. Et si vous ne faites pas partie de cette catégorie, que vous voulez vous débrouiller tout seul,
vous êtes incapable de passer la ligne d'arrivée. Vous n'êtes même pas capable de démarrer sur la route qui va vers le salut. Mais on peut juste regarder à notre Père et dire, vas-y, fais-le, je te fais confiance, je me repose dans ton amour, je me repose dans ta parole. Je m'allonge dans le lit du salut. Je compte sur ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Connaître tout dont on a entendu parler ce matin, dont la fondation est Jésus-Christ. La seule fondation possible. Et après, on édifie dessus. Avec toutes les grâces et les miséricordes qu'on a reçues de la part de Dieu. Et on finit par avoir une tour. Une tour érigée à la gloire de Dieu. Pas à notre mémoire. À la gloire de ce qu'on a accompli. À la gloire de nos forces. Il est toute chose. On n'est pas merveilleux, mais il est merveilleux. Et ce soir, on se réjouit simplement dans ce salut qui est à nous. Je suis tellement reconnaissant d'être dans un ministère qui amène ce genre de message dans le monde entier. Il a commencé avec nous. Il nous a scellés dès le commencement. Scellés sous vide. C'est une sécurité complète. Et il nous dit, attache ta ceinture. Je te garantis, par mon nom, par ma nature, que je t'amènerai jusqu'à la ligne d'arrivée pour ma gloire et pour mon honneur. Amen. Seigneur, merci ce soir pour le genre de Dieu que tu es. Le Dieu qui refuse de justifier qui que ce soit d'autre que les impies. Qui refuse de laisser participer qui que ce soit au salut, à moins qu'il réalise ses besoins, le fait qu'il n'a aucune force. Et Seigneur, c'est ce que nous sommes. Beaucoup d'entre nous dans cette église ce soir, même après 10, 15, 20, 30 ans ou plus de courir la course, on continue à lever les yeux derrière nos épaules et à regarder celui qui nous porte, celui qui pourvoit pour chaque ressource, chaque force, celui qui s'est enchaîné à nous et qui a décidé de nous aimer avec un amour qui ne cessera jamais. S'il y a quelqu'un ici ce soir, qui ne connaît pas Dieu de cette façon, s'il vous plaît, invitez-le dans votre corps, cœur. Dites, Seigneur Jésus, je n'ai aucune force, moi non plus, je n'ai aucune ressource. J'ai une volonté, mais je n'ai pas la puissance. La seule capacité que j'ai ce soir, c'est ma disponibilité pour ta grâce et ton salut. Pourquoi je confesse mes besoins? J'ai aucune action à mener, aucune œuvre. Mais juste des besoins. Et je t'accepte comme mon sauveur dans mon cœur ce soir. S'il te plaît, viens dans mon cœur et sauve-moi. Viens dans mon cœur. Si vous avez dit cette prière, levez la main, juste pour qu'on puisse prier pour vous. Est-ce qu'il y a une personne ici ce soir qui voudrait accepter Christ? Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce. On ne pourra jamais parler assez à propos de ça. On ne pourra jamais chanter assez à ce sujet. On ne pourra jamais le partager assez. Tu es tout. Et on se sent comme Rick Roy, Seigneur. On se sent porté, aimé. ce que tu es venu pour nous. Et on n'a fait aucune œuvre. Tu es venu à nous, Seigneur, et tu me le dis. Je te donne la vie éternelle. Laisse-moi juste le faire. Et on a dit Amen. Seigneur, que tu continues à recevoir toute la gloire dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.